Chapitre 6. Elle ne dort pas plus de 3 heures de toute la nuit, et ce n'est pas un sommeil pris d'une traite. Il arrive en petit bout d'un quart d'heure, suivi d'un qui-vive angoissé, pendant lequel elle garde les yeux grands ouverts sur la nuit, nerveuse, désespérée, suivi 2 heures plus tard d'un autre quart d'heure de sommeil, suivi d'une veille les yeux grands ouverts sur la nuit. Étendue dans son lit, les yeux fixés sur l'obscurité, elle se sent vue, mais pas entendue par ce qui, quoi que ce soit, la regarde d'en haut. Au bout d'un moment, ce regard se détourne et elle se retrouve seule dans l'univers. Au travail, elle est comme un zombie, accomplissant tant bien que mal les tâches de son service, espérant qu'aucun patient ne fera d'arrêt cardiaque devant elle, car elle ne sera pas en mesure de réagir efficacement. Dreamy a de nouveau pris sa journée. Elles sont donc encore une fois en sous-effectif. Les commérages vont bon train dans les couloirs. Augie Williamson s'est suicidé. Non, il a fait une overdose et il est tombé juste devant une rame. Il y a des témoins, mais ils ne se sont pas manifestés. Il a été poursuivi sur le quai. C'était une affaire de drogue, ça a mal tourné. Et il a essayé de s'enfuir. Il a glissé sur le quai et il est tombé devant le train. Crac ! Mais aucune de ces rumeurs n'aborde la question de savoir comment il se fait que le conducteur n'a pas remarqué l'impact. Peut-être qu'il n'avait pas vu Augie, mais il a bien dû sentir l'impact. On disait dans tous les journaux qu'Augie était mort entre minuit et 1 heure du matin, mais que son corps n'avait été découvert que pendant l'heure de pointe du matin, coincé sous le rebord du quai. Alors, quel effet ça fait de terminer son service, rentrer à la maison et dormir 8 heures, puis apprendre à son réveil que la rame de métro que l'on conduisait a heurté la tête de quelqu'un? Le pauvre, dit l'une d'elles, il devra vivre avec ça tout le reste de sa vie. Après le travail, Mary Pat enlève sa tenue dans le vestiaire et met les vêtements dans lesquels elle est venue, puis elle fait une chose dont elle n'arrive même pas à admettre qu'elle est en train de la faire, jusqu'au moment où, ayant emprunté la ligne rouge, elle traverse la Charles River. Elle est dans le métro pour Cambridge. Elle descend à Harvard Station, s'engage sur Harvard Square, et c'est aussi insupportable que ce qu'elle craignait. Des enfoirés de hippies partout. Ça sent la marijuana et les odeurs corporelles. Tous les 20 pas, quelqu'un gratte une guitare en fredonnant une chanson qui parle d'amour. Mec. De Richard Nixon. Mec. Nixon a évacué la Maison Blanche en hélicoptère il y a près de 3 semaines, mais il est toujours leur croque-mitaine à ces lavettes choyées, suréduquées, qui ont refusé d'aller à l'armée. Elle n'arrive même pas à compter combien sont pieds nus à traîner dans les rues sales avec leurs pantalons pattes d'éléphant élimés, leurs chemises multicolores, leurs colliers de perles et leurs longs cheveux. Les filles sans soutien-gorge, les fesses débordant généreusement de leurs jeans coupés en short, remplissant l'air de la fumée de leurs cigarettes aux clous de girofle, de leurs joints. Chacun et chacune d'entre eux étant une source d'embarras pour leurs parents, qui ont dépensé des sommes faramineuses pour les envoyer dans la meilleure école du monde. Une école dans laquelle pas un pauvre ne pourrait entrer, aucun doute là-dessus, et ils les remercient en traînant les pieds sales et en chantant leurs chansons folk merdiques qui parlent d'amour, mec, d'amour. Quand elle entre sur le campus, la proportion de hippies par rapport aux étudiants qui ont l'air normal tombe à environ 1 sur 3, ce qui est quelque peu réconfortant. Les étudiants ressemblent aux étudiants de fac dans les films, mâchoires carrées et coupe de cheveux carrées, les filles en robe ou jupe et chemisier, les cheveux lissés et brillants, les garçons en chaussures à lacets et chinos, se déplaçant avec la démarche assurée des classes supérieures. Mais ce que les deux groupes ont en commun, c'est leur profonde perplexité à propos de ce qu'elle peut bien faire sur leur campus. Elle n'est pas habillée comme une souillon des cités. En cet instant, elle est habillée comme bien des ménagères qui parcourent les rues de South Boston, ou de Dorchester, ou de Rothesay, ou de Hyde Park, chemisier de polyester rouge, pantalon beige et, au mépris de la chaleur, surchemise écossaise. Elle a mis cette tenue pour aller travailler ce matin parce qu'elle voulait dire à ceux qui viendraient à la regarder « Tout est sous contrôle. Je maîtrise la situation. Ne faites pas attention aux entailles et aux meurtrissures sur mes phalanges et ne voyez que la dame chic que vous avez sous les yeux. » Mais quelque chose en elle devait aussi savoir qu'il se pourrait qu'elle ne rentre pas directement chez elle après le travail, qu'il se pourrait qu'elle traverse le fleuve pour se rendre dans un monde qui lui est si étranger qu'elle se sentirait plus chez elle dans un autre pays. En Irlande, certainement. Au Canada, peut-être. Elle s'était dit qu'elle avait l'air élégante, ainsi mise, mais à en juger d'après les regards en coin que lui lancent les morveux et les hippies dans Harvard Yard, elle se fait remarquer pour ce qu'elle est précisément. Une nana des classes populaires, débarquant de l'autre côté du fleuve dans leur monde, vêtue de ses ridicules habits du dimanche achetés dans le catalogue Sears. Il présume qu'elle s'est trompée de métro et qu'elle se retrouve là, errant sur le campus de Harvard comme un gosse perdu dans un supermarché avant de s'en retourner dans son monde crasseux pour raconter à ses enfants crasseux toutes les choses splendides qu'elle a vues, mais n'a jamais pu toucher. Elle est déjà venue ici une fois, avec Ken Fenn, juste avant Noël, il y a 2 ans, le lendemain du jour où il avait officiellement appris qu'il était engagé au service du courrier. C'était un samedi, au milieu de l'hiver, et il n'y avait que quelques étudiants emmitouflés sur le yard, et en cette journée où il faisait moins 25 degrés, aucun hippie ne traînait sur la place. Ils avaient rencontré son supérieur, elle ne se souvenait plus de son visage, et il avait donné à Ken les clés de la salle, ainsi que le passe-partout pour les casiers, et lui avait expliqué les tâches à accomplir pendant son service, qui allait de midi à 20h30 chaque jour ouvrable. Puis il les avait laissés parcourir la salle seule. La salle du courrier était située dans le sous-sol du Memorial Hall, un bâtiment si monumental et imposant qu'il était difficile d'imaginer que quelqu'un comme Ken puisse travailler là, jour après jour, sans qu'une partie de lui ne tremble devant la pure majesté de l'endroit. Kenny Fennessy a grandi dans la cité de Dee Street, un endroit tellement pourri qu'en comparaison, Commonwealth et Old Colony ressemblent à Back Bay et Beacon Hill. Un type balèze, Ken. 1m90. Des mains qui se transforment en rouleaux de fer à béton quand il serrait les poings. Si vous le faisiez chier, vous aviez intérêt à être 3, parce qu'il ne cessait le combat que lorsqu'un coroner l'ordonnait. Mais si vous ne le faisiez pas chier, Ken Fenn ne levait jamais la main sur vous. Jamais il ne vous brutalisait ou vous bousculait. Il préférait de beaucoup écouter ce que vous aviez à raconter, vous fréquenter, découvrir ce que vous aimiez faire et le faire avec vous. Dès sa naissance, Ken n'avait eu d'autre choix que croire en la violence. En revanche, il n'avait jamais cru en la haine. Quand elle l'avait rencontré, il était divorcé depuis peu et il payait une fortune en pension à une ex-femme qui lui avait dit un jour, avec une fierté pleine d'amertume, qu'elle n'était pas capable de donner de l'amour, mais que si elle l'était, elle ne le gaspillerait pas avec lui. Mary Pat et lui sont sortis ensemble pendant 1 an avant de se marier. Ken Fenn n'avait jamais eu le moindre sou en poche jusqu'au jour où il avait décroché ce boulot au service du courrier à Harvard, ce qui avait donné l'impression que, peut-être, au bout de 2 ou 3 ans, une fois qu'il aurait épongé ses dettes, il pourrait les sortir de cet ensemble de logements sociaux. Autre avantage de son emploi, il était autorisé à assister aux cours magistraux de Harvard gratuitement. Il ne pouvait pas obtenir de diplôme, mais il pouvait suivre les cours. C'est comme ça que les ennuis ont commencé. D'un seul coup, voilà qu'il se met à rentrer à la maison avec des livres. Elle se souvient de Siddhartha et d'un autre, le tambour. D'un seul coup, voilà qu'il se met à citer des gens dont elle n'a jamais entendu parler. C'est pas qu'elle ait entendu parler de tant de gens que ça, mais d'un seul coup, voilà qu'il se met à citer. Et Kenny n'avait jamais été du genre à faire des citations. Elle le trouve assis seul à une table au milieu de la salle du courrier. Elle s'est arrangée pour arriver à l'heure de sa pause déjeuner, mais il n'a pas de nourriture devant lui. Il est juste assis là, en train de lire, évidemment. Et il lève les yeux avec un large sourire quand elle entre. Le sourire s'efface vite, comme s'il lui avait été enlevé du visage par la plus rapide des mains. Et elle comprend à cet instant qu'il s'attendait à voir arriver quelqu'un d'autre. « Salut, » dit-elle. Il se lève de la table. « Qu'est-ce que tu fais ici ?
Est-ce que tu as vu Jules ?»
Il secoue la tête.
« Pourquoi j'aurais vu Jules ?»«
J'ai pensé qu'elle était peut-être venue te voir. Je n'arrive pas à savoir où elle est. »«
Depuis quand ?»«
Avant-hier soir. »«
Bon Dieu, Mary Pat !»
Il s'avance jusqu'à elle, lui prend le coude.
« Viens, assieds-toi. »
Bien qu'il n'ait pas eu envie de la voir, bien qu'il soit toujours en colère contre elle, ou est-ce que le sentiment qu'il éprouve envers elle est pire, d'une certaine manière, que la colère, bien qu'il ait été si irrité et excédé la dernière fois qu'ils se sont parlé, au moment où elle en a besoin, il vient à elle. C'est un roc, Kenny. Il l'a toujours été. Le premier à apporter du soutien. Le dernier à en demander. Elle s'affaisse un peu quand il la conduit à la table et tire une chaise. Ses yeux se remplissent de larmes. La peur qu'elle a gardée soigneusement emprisonnée explose et transperce son enveloppe et un petit gémissement s'échappe de ses lèvres tandis qu'il l'aide à s'asseoir sur la chaise et en tire une autre pour lui en face d'elle. Elle a besoin de quelques secondes pour retrouver sa respiration et, quand elle commence à parler, elle ne peut plus s'arrêter. C'est un flot qui se déverse. Je ne l'ai pas revue depuis l'autre nuit et j'ai ce sentiment, j'ai ce sentiment, Kenny, et c'est le pire sentiment, pire que tout ce que j'ai pu ressentir pendant toute cette année où Noël était au Vietnam et pire que celui que j'ai eu le jour où Yuki, qu'il repose en paix, est sortie et je ne l'ai plus jamais revue. C'est comme si une partie d'elle n'avait jamais quitté mon ventre, tu sais. C'est resté là, à l'intérieur. Et c'est devenu autre chose, c'est devenu comme fondu dans mon corps. À l'intérieur. Avec le sang et les organes et tous les autres trucs sans lesquels on ne peut pas survivre. C'est là qu'une partie d'elle est toujours restée vivante. Mais je la sens plus, là. Pour la première fois depuis sa naissance. Elle se frappe la poitrine plus fort qu'elle n'en avait l'intention.
Elle n'est plus là.
Il lui tend des mouchoirs en papier qu'il a trouvés quelque part. Elle s'en sert et elle est surprise de les retrouver complètement trempés dans sa main. Il lui prend cette masse spongieuse et lui en tend deux autres propres, puis encore deux de plus, jusqu'à ce qu'elle ait le visage sec et le nez dégagé.
Alors, tu ne l'as pas vue et elle t'a pas donné de nouvelles ?
Demande-t-elle. Les yeux tristes, il répond. Non.
Elle s'adresserait à toi si elle avait des ennuis quelconques dont elle ne voudrait pas me parler.
Probablement, oui.
Elle t'aime beaucoup.
Je sais.
Elle a ton numéro ?
Ouais.
Ça la blesse un peu. Elle n'a pas son numéro, elle. Mais sa fille, là.
Bon. Ok, dit-il. Reprenons. Dis-moi ce que tu sais.
Ça lui prend 5 minutes.
Bon,
dit-il de cette voix analytique qu'il prenait parfois pour expliquer une combinaison au football qu'elle n'avait pas comprise ou, plus tard, au cours de leur vie ensemble, quand il expliquait ce que signifiait l'une de ses citations.
Elle est avec les jeunes dans le parc jusqu'à minuit, puis Elle est à Carson Beach pendant encore 45 minutes. Elle rentre à pied. C'est leur version.
Elle hoche la tête en disant « Et ils n'en démordent pas. »
Ça m'a l'air d'être des conneries.
Pourquoi ?
Ils ont pas les idées claires, hein ? Ils boivent, ils planent un peu, fument de l'herbe.
Ouais, c'est ça.
Mais ils savent tous quelle heure il est.
À la minute près, ajoute-t-elle. Moi aussi, ça m'a paru bizarre.
Il réfléchit un moment, ses yeux, comme toujours, brillants d'une intelligence qu'il ne parvenait jamais à dissimuler totalement, malgré tous ses efforts,
une chose qu'elle aimait en lui, presque autant qu'elle aimait sa gentillesse.
« Attends un peu, » dit-il. « Tout ce mystère, si on peut appeler ça comme ça, s'est passé entre minuit et une heure, dans la nuit de samedi, hein ?»«
Oui. »«
Bien. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de Columbia Park, Mary Pat ?»
Elle hausse les épaules. « Des tas de choses. »«
Columbia Station, » dit-il. « Là où ce jeune noir a été tué. »
Elle ne le suit pas complètement. « Ouais ?»«
Entre minuit et une heure du matin, » dit-il. « C'est ce que disent les journaux. »
« Mais qu'est-ce que les deux choses ont à voir l'une avec l'autre ?»«
Je ne sais pas. Peut-être que ces gosses ont vu quelque chose. »
Elle essaie de retourner ça dans sa tête.
« Ou bien, »
poursuit Ken Fenn,
« peut-être qu'ils sont impliqués d'une manière ou d'une autre. »
Elle le regarde en plissant les paupières et, à cet instant, une fille noire, avec une coiffure afro de la taille d'un marmot, entre dans la salle avec un sac de nourriture. Mary Pat sent la nourriture. Il y a quelque chose de frit à l'intérieur. Et elle remarque deux bouteilles de coca qui pendent des doigts de l'autre main de la fille. Elle remarque aussi la chaleur du sourire quand les yeux de la fille aperçoivent Kenny. Alors, pense Mary Pat avec une sensation de dégoût et de gêne. C'est elle. C'est pour elle que tu m'as quittée. Cette négresse. La fille, bon sang, elle est magnifique, se dit Mary Pat avant de pouvoir s'en empêcher. Lui adresse maintenant un sourire, hésitant, et pour une raison qu'elle ne saurait expliquer, la première chose que Mary Pat pense à lui dire, c'est « Vous avez quel âge ?»«
Seigneur, » dit Ken Fenn en éloignant sa chaise de Mary Pat.
La fille s'avance vers eux avec, sur le visage, un petit sourire retenu. « J'ai 29 ans. » Elle pose la nourriture sur la table et se tient derrière Kenny. « Et vous ?» Mary Pat ne peut retenir un ricanement intérieur, mais elle n'en laisse rien paraître. Un silence étrange s'installe dans la pièce. Plus il dure, plus il devient embarrassant. Pourtant, aucun d'eux ne le rompt pendant un temps infini. Jusqu'au moment où Mary Pat se lève et dit à Kenny « Préviens-moi si t'as des nouvelles de Jules. » Kenny fait la grimace. Il désigne la femme-enfant noire qui est venue se mettre contre sa hanche.
« Mary Pat, je te présente... »«
Je ne veux pas savoir son putain de nom !» La femme-enfant noire laisse échapper un éclat de rire surpris et elle écarquille les yeux. Mary Pat sent la rage qui palpite derrière les siens. Elle les sent rougir. Elle a une vision de ces deux-là en train de traverser le pont de Broadway vers South Boston. La petite main noire de la fille dans la grande main blanche de Ken. Imaginer cela est presque insupportable. Les regards qu'ils attireraient, l'humiliation qui s'élèverait telle une vague avant de s'abattre sur Mary Pat et Jules et qui salirait même la mémoire de Noël, qu'il repose en paix. Kenny Fennessy, de la cité de Dee Street, revient à Southsea, traître à sa race, amoureux d'une putain de Morricone. Que Ken Fenn et la fille afro survivent ou meurent sur le trajet. Mary Pat doutait qu'il puisse parvenir vivant jusqu'à Sea Street. Il n'irait certainement pas plus loin que E Street, la honte qui resterait attachée à Mary Pat et Jules aussi longtemps qu'elle garderait le nom de Fennessy et probablement pendant des décennies après serait impossible à surmonter. Mais c'est Kenny et la femme enfant noire qui la dévisagent, elle, avec mépris. Comment est-ce possible? Comment tu peux avoir la conscience tranquille? Siffle-t-elle à Kenny. C'est un grand mystère.
Comment, moi, je peux avoir la conscience tranquille?
Dit Kenny, tandis que la femme lui saisit le bras, mais il s'en dégage pour venir se planter devant Mary Pat. Tout à coup, elle se sent complètement perdue. Elle n'a pas voulu ça. L'espace d'un instant, elle ne trouve rien à dire. Elle veut juste s'éclipser d'ici. Elle veut juste repartir à la recherche de Jules. Mais ça fait si longtemps qu'elle accumule tout ça en elle depuis que Kenny l'a quittée. Et les mots sortent tout seuls de sa bouche. On était heureux.
Il dit. On était heureux.
Elle s'en rend compte tout à coup. Il ne l'était pas. Elle l'était. Mais lui n'a jamais paru l'être. On a rencontré quelques turbulences.
Ce n'étaient pas des turbulences, Mary Pat. C'était notre vie pourrie qui se ratatinait. Depuis que j'ai appris à marcher, tout ce que j'ai vu autour de moi, c'est la haine et la rage. Des gens qui s'abrutissaient d'alcool pour ne pas s'en apercevoir. Et puis, ils se levaient le lendemain matin pour refaire la même chose. Et ça, pendant des dizaines d'années, putain. J'ai passé toute ma vie à mourir. Quel que soit le temps qui me reste, je veux le vivre. J'en ai marre de me noyer.
La belle fille noire les regarde tous les deux avec un calme que Mary Pat trouve à la fois admirable et insultant. Mary Pat se retourne vers Kenny et voit, au-delà de sa colère et de la sienne propre, l'espoir dans ses yeux, tout petit mais frémissant, comme s'il disait « Vis cette nouvelle vie avec moi ». Et une certaine partie d'elle est presque sur le point de dire « Oui, partons ». Une certaine partie d'elle est presque sur le point de saisir le visage de Ken et d'écraser ses lèvres sur les siennes et de dire entre leurs dents qui s'entrechoquent « Foutons le camp !» Mais sans qu'elle sache trop pourquoi, les mots qui sortent de sa bouche disent « Ah, c'est ça! Tu es trop bien pour nous !» Un désespéré s'échappe des lèvres de Kenny. Un bruit qui se situe quelque part entre le hurlement étouffé et le soupir sonore. La mini lueur d'espoir qui vivait dans ses yeux se fait la malle. Et maintenant, il la regarde avec des pupilles mortes, des iris morts, avec tout mort.
Barre-toi d'ici, dit-il tout bas. Si Jules s'amène, je te l'enverrai.